Let's hear now an example of correct microphone tendency.
Slippery. When.
Wet.
Yep. Never.
Slippery.
When.
Wet.
Slippery.
When.
I know you had something to do with whatever my brother.
We'll be right back.
Bonsoir.
Ouh, ça grince.
C'est Slipper et One Wet sur Radio Campus Grenoble 98. Donc ce soir, pour ceux qui ont résisté au premier titre qu'on vous a passé, et je suis sûre qu'il y en a, il y en a même qui ont aimé.
Sans aucun doute.
On va vous promener dans l'univers d'un artiste majeur de la scène électronique britannique en vous parlant d'Aphex Twin, dont on vient d'écouter Window Licker, qui est l'un des titres les plus connus, qui est extrait du EP
éponyme,
sorti chez Warp en 1999. Donc Aphex Twin, c'est l'un des nombreux pseudos de Richard David James.
Ouais, il en a
on
plein.
On prend qu'avec un nom pareil, il est voulu prendre un pseudo, hein, remarque. Qui est né en 1971 en Irlande, mais qui a grandi en Cornouailles, dans une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre. Comme les deux frères de Birds of Canada.
On baille au Cornouailles, d'ailleurs.
Comme on s'emmerde, donc comme les deux frères de Birds of Canada, dont vous avez parlé dans une précédente émission, James commence à faire de la musique dans son coin, alors qu'il a une dizaine d'années, et oui, précoce le garçon. D'abord en martyrisant le piano familial, bon ça c'est classique, mais pour en extraire des sonorités non conventionnelles.
James, arrête !
Puis en bidouillant des sons enregistrés avec son magnétocassette. Et oui, c'est quand même les années 80. Il est aussi de la génération qui a connu l'arrivée des premiers ordinateurs domestiques.
C'est un grand moment, je m'en souviens moi-même.
Pas moi. Il m'a vite tiré parti de son ordinateur ZX Spectrum, attention, avec 48 kilo-octets de RAM quand
attention.
Même, hein, c'est pas rien, et du beeper intégré pour produire des sons et réaliser ses premières compos vers 14 ans.
Et oui, et non content de composer dès 14 ans, le jeune Richard James, il occupe une bonne partie de son temps libre d'adolescent à faire le DJ dans les pubs et dans les raves des patelins de Cornouailles. Et vers la fin des années 80, c'est en tant qu'artiste acid house en fait qu'il commence à se faire un nom. Mais les influences musicales de James ne s'arrêtent pas à la techno et à ses boucles répétitives, et elles sont aussi dans la musique plus savante. Et celui qui deviendra Aphex Twin, c'est surtout un admirateur de compositeurs contemporains comme Cage ou Stockhausen, ça c'est un peu plus hardcore, mais aussi d'Eric Satie, dont il trouve le travail particulièrement en avance sur son temps. Et du coup, c'est plutôt cet aspect-là dont on va vous parler ce soir, même si dans la discographie de Richard D. James, il y a de la grosse techno qui tâche, de la drum and bass, voilà, tout ça pour danser ou pas. Nous, on va se concentrer sur l'ambiance, et puis pour illustrer tout ça, on va d'abord écouter Eric Satie, la gymnopédie numéro 3, ça c'est extrait de Classical Sampler, interprété par Kevin MacLeod, c'est sorti en 2011 et c'est sans label, c'est en Creative Commons, et ce sera suivi d'un titre d'Aphex Twin au nom imprononçable, je me lance, Petiatil Skrdui,
ouais,
c'est sur l'album Drugs, c'est sorti chez Warps en 2001. Thank you.
Bon, alors donc, là, vous venez d'entendre Petiatil CX Ustudui de Aphex Twin. Et avant, c'était la gym de Petit numéro 3 d'Eric voilà. Satie.
Mais voilà. En fait, on a tellement bien choisi les morceaux qu'ils se ressemblent et du coup, on n'a pas vu la transition, c'est magnifique.
Alors, bon, je vais en revenir sur, Richard. Richard David James, donc, il a quitté la Cornouaille de son adolescence pour partir à Londres au début des années 90, où il a commencé à suivre des cours d'électronique. Alors, à la fois parce que il bricolait des circuits quand il était tout petit, il aimait bien, et d'autre part, parce qu'il considère que la musique et l'électronique, ça va de pair. Alors, il a quand même laissé tomber les cours au bout d'un an pour se consacrer entièrement à la musique, parce qu'il ne faut pas déconner, les choses sérieuses, tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris le pseudo d'Aphex Twin à l'occasion de la sortie de son premier album qui s'appelait Selected Ambient Work 85-92. Alors, comme son nom l'indique, c'est un album d'ambiante et de musique électronique expérimentale qui rassemble des morceaux qu'il aurait composés dès l'âge de 14 ans. Alors là, on repart sur les petits enfants précoces, tout ça, comme Wolfgang, tout ça. Alors, avec ce disque, Aphex Twin s'est fait connaître, et puis très vite, il y a la critique qui a suivi, et elle voyait dans son travail une évolution du style exploré fin 70, début 80 par Brian Eno.
Ah oui, alors Brian Eno, on va quand même glisser le fait que c'est quand même l'inventeur du terme ambient music au milieu des années 70 pour décrire, alors c'est pas le premier à en faire, hein, mais par contre c'est le premier à utiliser ce terme-là pour décrire une musique qui peut être soit activement écoutée, soit ignorée, selon le choix de l'auditeur.
Mais activement ignorée alors?
Ouais. Activement ignorer.
Bon, alors, on va activement ignorer ce qui vient d'être dit et je vais donc enchaîner sur les deux titres que vous allez écouter qui sont A Clearing, tout d'abord de Brian Eno sur l'album Ambient for On Land édité par IJ en 82. Et ensuite, on écoutera Untitled Number 17/Z-Twig, ça dépend
de la version voilà, d'album qu'on a.
Donc, d'Aphex Twin, et là, c'est dans Selected Ambient Work, volume 2, chez Warp, sorti en 94.
Voilà, vous écoutez toujours Slippery When Wet sur Campus Grenoble 90.8. On vient de se faire un petit créneau de méditation transcendantale.
Bonne
c'était
nuit,
pas
les
mal.
Petits.
Bonne nuit les petits. Voilà. C'était dans l'ordre Brian Eno avec A Clearing, suivi d'Aphex Twin avec le titre numéro 17 de Selected Ambient Works volume 2. Allez, et puis pour finir avec les influences notables de Richard D. James, on vous propose la petite récré suivante. Tenez, écoutez ça. Écoutez, et puis dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on entend là-dessus ? Ça sonne comme une vieille pendule désaccordée.
Je trouve que ça sonne comme une Nine Inch Nails.
C'est vrai. Du coup, on aurait tendance à dire que c'est un peu électro quand même, mais ça sonne musique concrète quelque part. Alors écoutons
C'est pas très électro, ouais.
Écoutons le deuxième extrait. Là, il y a du traitement du son à mort, là. Ça ressemble quand même.
Ouais, ça ressemble. Ouais,
du point
carrément.
De vue des sonorités, on entend bien les similitudes ou les similarités, d'ailleurs, je sais pas comment on dit. Alors, on casse le morceau. Le premier extrait, c'était Aphex Twin, lui-même. Un extrait d'un titre qui s'appelle Disc Prepped 4, extrait d'un EP Computer Controlled Acoustic Instrument qui est sorti cette année. Et le deuxième extrait, c'était John Cage avec un extrait de la sonate numéro 5 pour piano préparé. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que donc Aphex Twin, évidemment, il connaît tout John Cage et il utilise beaucoup les mêmes procédés de bricolage du son, depuis qu'il est tout petit d'ailleurs. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le titre d'Aphex Twin, c'est vraiment du piano qu'il a vraiment préparé lui-même, sauf que c'est pas lui qui en joue, c'est son ordinateur. Et donc voilà, c'est comme ça sa façon d'apporter le piano préparé dans l'ère de la musique électronique. C'est formidable, non ?
Cette bande de geeks. Bon, Lionel, c'est pas pour te casser ton trip, mais c'est bien beau toute cette musique savante, mais en fait, l'ambiance qui est certes développée par Brian Eno, tout ça, et quelques autres d'ailleurs, hein, Vangelis, Jean-Michel Jarre, mais aussi Pink Floyd, dans les années 70, gagne beaucoup en popularité grâce aux free parties, ça fait un peu moins musique savante, et à la techno, parce qu'elle rejoint la musique qui est jouée dans les chill-out rooms. Bon, t'arrêtes là, tu me déconcentres, je suis en train de dire des trucs intéressants.
Tu te plaignais qu'il n'y avait pas de tapis.
Donc, la musique qui est jouée dans les chill-out rooms, vous savez, là où on vient faire sa descente d'extin en douceur. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un courant qui est largement en fait inspiré par la house, et en particulier la acid house, dont on avait vu que Aphex Twin avait commencé là-dedans. Et dans ce courant, justement, Aphex Twin fait figure de pionnier. C'est ce qu'on appelle la ambient house, ou de façon un petit peu plus... qui fait un peu moins l'unanimité, l'intelligent dance music, ou IDM.
Ah, c'est comme une blonde intelligente,
c'est ça. C'est ça, ouais. Bon, en fait, justement, lui déteste ce terme parce qu'il trouve que c'est complètement discriminatoire par rapport aux autres genres musicaux. C'est vrai qu'en fait, on dit rarement intelligent rock and roll ou intelligent pop folk. Bon, peut-être parce qu'il n'y en a pas, mais bon, ça, c'est... je vous laisse décider.
Ou alors tout est intelligent.
Et en fait, en vrai, le terme est apparu suite à l'apparition d'un album qui s'appelait Artificial Intelligence sur le label Warp, encore eux, qui était sous-titré Electronic Listening Music et qui donc, comme son sous-titre l'indiquait, visait à se différencier de la scène techno classique. classique qui s'écoute en club ou en rave, qui est vraiment pour danser, et qui, au début des années 90, devient de plus en plus stéréotypé. Là, l'idée, c'est plutôt justement de se diversifier, d'aller un peu creuser. C'est un peu comme le prog-rock par rapport au rock'n'roll, quoi, finalement. Et ça s'adresse plutôt à un public qui va écouter de la musique chez lui ou en after. Et à cette époque, en fait, c'est ce genre de musique qui est désigné par le terme d'ambiance. Quand on dit ambiance, c'est à ça qu'on pense, quoi.
Voilà.
Voilà. Donc, en fait, le vrai pionnier de l'IDM, c'est le groupe The Orb, qui est aussi un groupe anglais qui s'inspire directement de l'ambiance de Brian Eno et qui rajoute des ambiances, des boucles techno, des samples ultra déformés et qui fait un tabac. C'est chiant. Dans la chillout room. Du heaven. Je suis fatiguée. J'ai besoin de concentration. Du heaven, qui est un club à Londres, à la fin des années 80. Donc, outre Aphex Twin, on peut citer d'autres précurseurs du genre, surtout issus de la scène techno, comme les Future Sound of London ou Outtaker. Non, mais ils sont tous morts de rire autour de moi, je vous jure.
Bon, pas du tout.
À la fois l'audience de style musical et les musiciens qui l'a créé, bon, s'éloignent ensuite progressivement de la chill out room, parce que les extas, c'est sympa, mais au bout d'un moment, on grandit, pour retourner plutôt sur le créneau de l'ambiance classique.
Bah, c'est l'héroïne. Hein,
d'accord. De la musique qu'on peut ou non écouter attentivement, qui va créer une ambiance mais sans forcément s'imposer. Et dans ce genre-là, on va retrouver pas mal de noms qu'on a déjà mentionnés, voire écoutés dans des émissions précédentes, parce que quand même, chez S4U, on aime bien l'ambiance. Donc par exemple, Trans Global Underground, Boards of Canada, Chris Clark et pratiquement tout le catalogue Warp.
Voilà, on pourrait taper dedans au hasard, ça marche. Donc,
pour illustrer un peu les origines de l'ambiance, on va écouter un titre de The Orb qui s'appelle Blue Room. Donc c'est extrait d'un album qui s'appelle U-Forb, le jeu de mots qui tue, sur Big Life en 92. Et puis ensuite, pour voir comment ça évolue, on écoutera un titre de Chris Clark. Vous allez voir que ça ressemble pas trop. Ça s'appelle Plein 1930s et c'est sur Clarence Park, sorti chez Warp en 2001.
Voilà, on ne sait jamais quand ça finit ce titre-là, c'est un peu angoissant. On vient d'écouter The Orb avec Blue Room et c'était suivi de Chris Clark avec un titre qui s'appelait Plin 1930s. Et sur ces quelques notes de piano mélancolique, ma foi, on va rester dans la finesse avec la chronique de Catherine.
Oh là là, la barre est
alors,
très
de qui
haut.
Tu nous parles aujourd'hui?
Bonjour les amis. En ce rayon printemps qui parfois ressemble à un début d'été, je vais plonger au cœur de l'hiver parce que le garçon avec qui je ne suis pas sortie d'aujourd'hui, c'est Dimitri K. Et pour exhumer Dimitri K, il a fallu que je fasse un effort surhumain parce que son souvenir était enseveli sous une amnésie de la petite enfance ou presque, suite à un traumatisme esthétique non identifié à l'époque, mais dont les séquelles n'en ont été que plus invalidantes et pernicieuses. Je vous parle de la période qui remonte à très 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 longtemps, quand j'étais gothique.
Non.
Et au beau milieu de ce douloureux fashion tunnel plein de fashion faux pas, pour parler comme dans les magazines culturels avec E2LE à la fin, S, E2LES à la fin et d'autres lettres intéressantes au début, Dimitri K représentait la quintessence de l'homme. Il écoutait The Cure non-stop dans son Walkman, il chantait Killing an Arab dans un groupe de New Wave extrêmement local, il avait les cheveux noirs et hirsutes, un rouge à lèvres prune et ses garde-robes tout entières auraient pu faire une pub pour Dylan, pas Matt qui à l'époque ravissait toute la partie non-gothique femelle de la planète. Non, Dylan en fait, Dylan, le fabricant de teinture machine nécessaire pour n'avoir que des vêtements noirs sans survivre. En plus, j'ai vite compris que Dimitri K ne copiait pas Robert Smith, pas du tout. Il était Robert Smith. Il était une réincarnation d'autant plus impressionnante que Robert Smith, malgré un train de vie débridé, n'était pas encore mort. Bref, un garçon irrésistible. Pas Robert Smith, Dimitri K. Plus accessible en tout cas. Donc moi, j'avais entamé ma danse des sept voiles, ressorti mes collants noirs les plus filés, je ne me lavais plus les cheveux corrigés color et Ben Corbeau, et j'apprenais par cœur Pornographie, dont j'avais acheté le 33 tours pour avoir les paroles sur la pochette, parce que sinon j'aurais juste fait une cassette comme pour les autres trucs. J'avais même eu l'idée très avant-gardiste de me faire quelques scarifications légères sur le poignet, ça avait marché du feu de Dieu. Dimitri avait l'air conquis par mes pulsions suicidaires, et aussi par mes Doc Martens pointus comme il y en avait qu'à Londres. Il était à point, ça tombait bien, parce que quelques jours plus tard, Dimitri et son groupe devaient jouer trois morceaux au cours d'une soirée Cold Wave organisée par sa fac. L'attaque était programmée à la sortie de son set, quand, auréolé de sa gloire et l'aiglo regonflé à bloc, il ne pourrait que considérer avec gratitude son repos du guerrier, moi. J'avais misé sur le Total Black avec supplément via une paire de petites lunettes de soleil rondes génératrices de mystère qui me permettaient aussi de dissimuler des yeux de lapin russe. Bah oui, pas de bol, pour le look panda contractuel gothique, j'avais racheté un crayon Kohl dans un tout pour 10 francs dont l'origine devait pas être trop contrôlée. Ça m'avait déclenché une méchante allergie. Mais bon, je n'allais pas me déclarer battue pour si peu, d'où les lunettes de soleil décotées dans une fripe et de la vie générale, elles étaient trop cool. Et ça a marché à mort. Quand à la fin de son set, Dimitri est enfin redescendu dans la cohue des spectateurs, auréolé de gloire et de la brume des fumigènes, je me suis glissée contre lui et, comme on dit dans les romans, nos lèvres se joignirent avec délice.
Non.
Bon, après, il m'a demandé d'enlever mes lunettes parce qu'elles le gênaient, et c'est là que j'ai réalisé que c'était pas avec Dimitri K que j'étais en train d'échanger ma salive et les bactéries afférentes, mais avec un autre garçon qui lui aussi avait les cheveux charbon en l'air, des vêtements noirs, et par contre plus du tout le rouge à lèvres parce qu'il avait fini par partir un peu malmené par notre gymnastique labiale. Bon, c'était pas grave puisque le Robert Smith que je galochais d'importance venait lui aussi de chanter Killing an Arab sur scène, c'était le groupe d'avant Dimitri, mais lui aussi connaissait The Cure avant même que les années 80 commencent. Voilà donc comment je ne suis pas sorti avec Dimitri K, mais avec Jean-Michel G. Et bah pourquoi pas. Hein.
Bon,
comme quoi le code du talent. Tout à 10 francs, voilà. C'est plein de surprises. Il
faut se méfier des magasins de déstockage massif de produits de beauté. Bon, on revient à nos moutons alors sur ces entrefaites. Et puis, pour illustrer une autre facette du travail d'Aphex Twin, on va mentionner son travail sur la drum and bass qu'il aime déstructurer et complexifier à souhait. Et on parle même d'un sous-genre spécifique, attention, ça s'appelle la drill and bass, caractérisé par son niveau de complexité justement et le foisonnement de détails qui s'opposent. Je touche dans le micro, c'est infernal.
Pour notre premier direct,
qui s'oppose à un genre généralement vu comme répétitif et plutôt tourné vers le dance floor, rendez-vous compte. Dans ce même genre, on peut aussi citer Square Pusher ou encore Amon Tobin, qui lui intègre des éléments assez jazzy et qu'on va écouter maintenant là tout de suite avec un titre qui s'appelle Nightlife, c'est extrait de Permutation, c'est sorti chez Ninja Tune en 98 et ce sera suivi d'Aphex Twin. Girl Boy Song, c'est extrait de l'album Richard D. James qui est sorti chez Warps en 96. Thank you.
Alors, vous venez d'entendre Girl Boy Song d'Aphex Twin et juste avant Nightlife d'Amon Tobin. Et pour ceux qui l'auraient reconnu et qui seraient cru sur France Culture à 9h du matin, bah pas du tout, vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 et vous êtes au cœur d'une émission consacrée à Aphex Twin dont je vais vous lister la, la discographie.
C'est parler de France Culture, ça te perd toujours.
C'est ça, je ne sais plus où je suis. Donc, il a commencé en 92 par sortir Selected Ambient Work 85-92 chez Aranis Records. Ensuite, en 94, Selected Ambient Work volume 2 chez Warp, et ça inaugure toute une série chez Warp qui continue en 95 avec I Care Because You Do, puis Melodies from Mars en 95. Alors, Melodies from Mars, non, ça n'a jamais été édité. Après, il continue avec, il reprend avec Warp. Donc, en 96, l'album, c'est Richard D. James. Et ensuite, Drux en 2001, donc Drux, D-R-U-K-Q-S. Et ensuite, il quitte temporairement Warp pour sortir Chosen Lords en 2006 chez Reflex Records.
Ça, enfin, c'est son propre label, en fait.
Ah, oh, bah, il triche, alors. Et enfin, Cyro, à nouveau chez Warp en 2014. Et puis, il a fait une bonne grosse dizaine de maxi, dont les plus connus sont Come to Daddy en 97 chez Warp et Window Licker en 99 chez Warp, donc avec tous les W qu'il faut, n'est-ce pas, Lionel? Et puis, il a aussi sorti plein d'autres trucs sur des pseudos aussi divers que Mike and Rage, Caustic Window, à nouveau, le retour de la Veuve Joyeuse, Power Polypill ou Bradley Strider, et voilà.
Alors, une petite anecdote pour terminer sur la discographie, mais rapidos parce qu'on est en retard. La plupart ont sa photo, plus ou moins la plupart de ses disques, plus ou moins grimaçantes ou déformées sur la couverture. D'après lui, c'est une réaction contre le code du milieu techno au départ, qui veut que tu sois absolument pas reconnu en tant que personne. C'est l'anti-star system de la pop, du rock, enfin bref, c'est pas Johnny quoi. Oui, mais ça marche aussi, remarque. Hein. D'où une réaction de provocation qui conduit à mettre son image partout, y compris dans ses morceaux eux-mêmes, puisque par exemple sur l'un des morceaux de Window Licker, sa photo apparaît codée en sténogramme. Alors pour ceux qui ont suivi, on en a déjà parlé à propos de l'anthologie dans l'émission sur Boards of Canada. Pour les autres, je vous laisse consulter la fiche Wikipédia. Hein. Alors pour continuer sur les artistes influencés par Aphex Twin, bah en fait c'est simple, hein, c'est pratiquement tout le monde qui fait de la musique électronique depuis les années 2000, hein, comme ça c'est bien, on n'oublie personne. Donc par exemple on peut citer Apparat, Nicolas Jarre, John Hopkins, Fortet, et dans le genre musique expérimentale et glitch, hein, vous vous souvenez, le glitch, on en a parlé aussi dans l'émission sur Boards of Canada, le tout influencé par la scène techno. Téléphone Tel Aviv, c'est un groupe qui illustre assez bien la diffusion du travail d'Aphex Twin chez les autres, et c'est un groupe qui, comme son nom ne l'indique pas, est un groupe américain de Chicago. Donc on va écouter un titre d'eux qui s'appelle What's the use of feet if you haven't got legs, et c'est une bonne question. C'est extrait de l'album Far Night Far Enough, sorti chez Hefty Records en 2001. Et ensuite, on écoutera un dernier titre d'Aphex Twin, Product 29, ou 29. Ça, c'est extrait de Cyrus, son dernier album, chez Warp en 2014.
Yeah.
Voilà, dans l'ordre, on vient d'entendre Téléphone Tel Aviv avec What's the Use of Feet If You Haven't Got Legs, et c'était suivi d'Aphex Twin avec Product 29, extrait du dernier album en date. Et puis, tiens, une petite anecdote pour finir à propos d'Aphex Twin, parce que ce garçon, il est assez discret vis-à-vis des médias, mais par contre, quand il est en interview, il se lâche complètement et il est absolument mytho. Alors ça a créé une vraie légende à son propos, hein, comme quoi il conduirait un tank, il habiterait dans un coffre-fort, ça serait le premier à avoir réussi à produire un son avec un ZX X81 quand il avait 11 ans, alors qu'il n'y a pas de carte son sur l'ordinateur, enfin tout ça, plein de choses, plus délirantes les unes que les autres. Alors il y a des choses qui sont vraies, hein, le tank c'est vrai, là, il habite effectivement dans une banque désaffectée, par contre le ZX81, ça c'est un hoax total. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et puis on va terminer l'émission en douceur avec un autre artiste influencé par Aphex Twin, il s'agit de Nosy Thing, compositeur américain de musique électronique.
Il est temps de s'arrêter d'ailleurs parce que Catherine s'endort sur le micro.
Allons bon.
C'est pas vrai, je me gratte le nez.
Donc Nosy Thing, il se revendique lui aussi comme l'héritier d'Eric Satie, Boards of Canada et Richard James. Et puis il fait partie de ces artistes qui ont remixé Philip Glass sur l'album Reworks qui est sorti il y a 2-3 ans de ça, dont faisait partie Amon Tobin aussi parmi les remixeurs, mais pas Aphex Twin parce que quand même la classe Aphex Twin, c'est lui qui est remixé par Philip Glass.
Figurez-vous, wow,
quand même, respect. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va écouter Safe de Nosy Thing, c'est extrait de l'album Home qui est sorti sur Innovative Leisure Records en 2013. Et puis, on vous dit au revoir au mois prochain sur Campus Grenoble 90.8.
Au mois prochain, soyez sages.
Au revoir.
Bye bye.